Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur le 71e Festival international du film de Cannes, festival de miracles et de mystères avec Alice Rohrwacker, Lee Chang-dong, Terry Gilliam et même Michel Simon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct pour la deuxième fois du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. C'est ce soir que s'achève la 71e édition du Festival International du Film. On saura peu après 20h quel palmarès Cate Blanchett et son jury auront tiré des 21 films en compétition cette année. Réunis ce matin dans une très secrète villa cannoise, la tâche n'a pas dû leur être aisée. La compétition était, ce n'est pas toujours le cas, d'une très bonne tenue en général et le pari de renouvellement nolens volens de sa sélection par le délégué général Thierry Frémaux a payé. En fin d'émission, Michel Simon, dont on a fêté ici la 50e participation, et oui, à la grand-messe annuelle du cinéma sur la Côte d'Azur, par ailleurs président du jury de la FIPRECI qui décerne les prix de la critique internationale. Michel Simon donc nous donnera sa lecture de ce marathon cinéphile. Auparavant, vous aurez entendu un miraculé Terry Gilliam qui s'apprête à présenter ce soir l'œuvre qu'il a hantée pendant près de 30 ans, un de ces films maudits qui font la légende du cinéma et que jusqu'à hier, ces démêlés judiciaires dignes d'un feuilleton à suspense maintenaient dans un risque d'interdiction, la justice a tranché. L'homme qui tue à Don Quichotte sera bien projeté en clôture du festival ce soir et sur les écrans dans toute la France. C'est un Terry Gilliam soulagé et enjoué que nous avons rencontré sur une terrasse cannoise. Un miracle encore avec le magnifique Lazzaro Felice, heureux comme Lazzaro de l'italienne Alice Rohrwacker. Vainqueur, prétendante très sérieuse à la Palme d'Or, avec cette fable hors du temps et pourtant terriblement contemporaine. Contemporain, tout lui aussi, le très beau film du grand maître coréen Lee Chang-dong, qui avec son mystérieux film noir Burning, lui aussi en compétition, explore des zones grises et indécises, la déchirure intérieure qui traverse tout coréen. Alice Rohrwacker et Lee Chang-dong, c'est maintenant dans Plan Large et on l'espère ce soir très en haut du palmarès cannois.
Restez alors, Dory, vous en avez. Bah, j'hésite à le faire, voilà, avant que vous entriez. C'est moi qui vous fais rester. Ouais. La vie est plus étonnante que les films. Surtout que ce film-là. Vous dites ce genre de choses à des inconnus, quoi. J'ai parlé trop vite. La vie est plus conne que les films, c'est tout. Et vous avez raison, le film hésite toujours devant la connerie de leur récit. Ils sont torts.
La vie est-elle plus étonnante ou plus conne que les films? Ce sont Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp qui s'interrogent sur cette question importante dans le film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite, présenté en compétition au début du festival et sorti en salle. En même temps, ces deux spectateurs sont pourtant en train de regarder La leçon de piano, très beau film de Jane Campion, seule femme à ce jour à avoir remporté une Palme d'Or, c'était en 1993 et encore l'avait-elle partagé avec Adieu ma concubine de Chen Kaige. Alice Rohrwacker sera-t-elle la seconde cinéaste féminine à remporter le trophée suprême? On en serait ravis ici à Plan Large. C'est à la quinzaine des réalisateurs qu'on avait découvert la cinéaste transalpine, sœur de l'actrice Alba Rohrwacker, qui joue d'ailleurs dans tous ses films. C'était avec Corpo Celeste en 2011, l'histoire d'une adolescente qui arrivait en Calabre après une enfance passée en Suisse et y découvrait une religion catholique passablement berlusconisée. On avait ensuite été proprement émerveillé par Les Merveilles, grand prix du Festival de Cannes en 2014. cette chronique sensuelle d'une famille néo-hippie volontairement retranchée du monde pour produire du miel artisanal et qu'une fée de télé-réalité, c'était Monica Bellucci, allait mettre en crise. On attendait donc avec une certaine confiance le nouveau film de la réalisatrice et on n'a pas été déçus. Avec Lazzaro Felice, heureux comme Lazzaro en français, Alice Rohrwacker franchit un nouveau cap avec cette fable hors du temps, l'histoire d'une communauté paysanne recluse dans les montagnes, dans un état de servage, entretenu par une marquise qui l'a maintenue hors du monde pour lui faire cultiver du tabac. En émerge une figure de bonté absolue, un innocent lunaire, sorte d'idiot dostoïevskien que son prénom Lazare prédispose évidemment au miracle. On verrait bien son interprète, la révélation Adriano Tardiolo, repartir avec un prix d'interprétation ce soir. Des circonstances qu'on ne dévoilera pas vont disloquer cette communauté et l'amener à découvrir l'Italie contemporaine. Dans le même geste, la cinéaste raconte plusieurs décennies de transformation brutale d'une société italienne fondée de tout temps sur l'exploitation la plus cynique, celle des paysans hier, celle des migrants aujourd'hui, et elle s'inscrit aussi dans la grande histoire du cinéma italien. Rencontre avec une cinéaste en état de grâce, c'était dans un couloir du Palais des Festivals. Alice Rohrwacker, quand on voit votre très beau film, on a ce sentiment d'être aussi dans l'histoire du cinéma italien. Et on pense à Rossellini, au Fioretti de François d'Assise, on pense à Olmi de L'Arbre aux Sabots, on pense à Pasolini dans votre manière de regarder les corps. Est-ce que ces références pour vous sont conscientes ou c'est parce que c'est un cinéma que vous aimez tellement que vous l'avez intégré même dans votre façon de filmer ?
Et je pense que c'est plutôt la deuxième. Et quand le travail de cinéma, c'est aussi un travail de créer de la mémoire. Et quand on fait un film, on part d'une mémoire, une mémoire secrète presque, pas une mémoire très consciente qu'on a. Et alors, je crois que très fortement que tout ce cinéma, il est rentré dans ma mémoire, dans mes rêves de quelque forme. Et si vous dites que vous le retrouvez, je suis tellement heureux. Ce n'était pas une prise, une chose consciente, mais c'est une joie.
Cette joie, on la ressent aussi parce qu'on a le sentiment que quand vous filmez les personnages, vous avez ce bonheur de les filmer. Vous montrez des personnages qu'on ne voit pas souvent, et notamment dans le cinéma italien, où souvent les comédiens ont des corps qui sont très normés par la télévision. Vous, on a l'impression que vous filmez des vrais corps déjà, mais que vous les filmez avec bonheur. Comment vous choisissez ces personnages que vous filmez et qu'est-ce qui se passe au moment où vous les filmez ?
On fait un grand travail de préparation, de répétition, qui c'est aussi un travail de comme une identité collective de tous les gens qui vont faire partie du film. On commence à aimer les films avec l'être ensemble et c'est pas, on le fait parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et comme normalement dans tous les films que j'ai fait, il y a eu un très grand travail de préparation, soit pour les décors, soit pour les gens, soit pour les costumes. Par exemple, ici, à l'Inviolata, on a vraiment reporté la vie dans un endroit abandonné, on a planté les tabacs, parce que les gens dans les films font des cigarettes, on a reporté les animaux, et tout ça, on l'a fait vraiment cherchant de mettre ensemble aussi les gens qui devaient après faire les films. Et je pense que les films racontent aussi cette expérience qu'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir. Ça, c'est la plus grande fierté que je peux avoir comme réalisatrice, c'est de voir les gens qui vont au travail contents. Et ça, je pense qu'on peut les voir dans les images parce que c'est quelque chose de réel. Même quand on était dans la ville, dans une situation pas simple, entre les trains, avec le froid, avec la neige, dans une petite cabane, on avait un peu un sentiment d'être comme des petites souris qui échappaient dans une qui vivait dans une petite, comment dire, tana, une petite maison à souris, je ne sais pas.
Oui, une petite souris, une petite tanière.
Une tanière, voilà. Dans une tanière. Et même là, dans les milieux de cette situation très post-apocalyptique, on avait quand même une félicité d'être là.
Lazzaro.
Lazzaro.
Oh, Lazzaro.
Mais ce bonheur du spectateur vient aussi du fait que vous montrez une situation qui est très dure, qui est à la fois celle de l'histoire de l'Italie et de l'Italie contemporaine, mais que vous y cherchez la possibilité du bien, que le bien puisse exister dans ce monde-là. Et dans le cinéma, c'est ce qu'il y a sans doute de plus difficile. C'est très facile de filmer des gens méchants, c'est très spectaculaire. Filmer des gens qui font le bien, c'est toujours dangereux parce qu'on risque de tomber dans le naïf, dans le trop gentillé. Comment vous êtes posé cette question? Comment représenter le bien?
J'avais un très fort désir de raconter l'histoire dans ces périodes où tout le monde veut être protagoniste, où il y a cette fioriture, comme on dit, cette énorme quantité de manières d'être protagoniste de sa propre vie. Je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui ne voudrait jamais être un protagoniste parce qu'il est trop gentil pour être un protagoniste. Il se cache toujours. Et c'était aussi très difficile de trouver Adriano Tardiolo, Lazzaro, parce que naturellement, ce n'est pas quelqu'un qui participe à un casting, quelqu'un comme lui. Mais finalement, on l'a trouvé. On voulait raconter l'histoire de quelqu'un qui n'est pas un protagoniste et surtout pas l'histoire de quelqu'un qui, avec l'histoire de film, change, comprend mieux la vie, devient une autre personne, avec cette identification adolescente de beaucoup de cinéma, mais quelqu'un qui ne change jamais. Moi, je sens que j'ai une évolution, mais je suis toujours moi-même. Je voulais vraiment voir si c'était possible de raconter l'histoire d'un monde qui change, avec quelqu'un qui reste toujours soi-même, parce qu'il n'a pas de raisons évidentes pour changer.
Brucia.
Cotta proprio. È cotto.
C'è la febbre.
Ça m'intéresse ce parallèle que vous faites entre vous-même et le personnage, parce que pour moi, c'est un personnage qui regarde. Ce sont deux grands yeux, peut-être avant tout.
Oui, il y a des grands yeux, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Je pense que les mystères de ces films, que c'est plus fort que les films que j'avais écrits. Moi, personnellement, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que pense Lazzaro. Ce n'est pas le regard de Lazzaro sur le monde, mais c'est le regard de le monde sur Lazzaro. Et dans ça, il y a peut-être une manière de revenir à une histoire de l'art où le sujet était regardé avec une pudeur, avec une contegno, je ne sais pas comment traduire cette parole en français. Et je pense que dans les films, on a cherché de maintenir, même devant des situations qui c'était possible de profiter plus des situations, mais on a cherché de maintenir une pudeur de la narration.
Vous parlez de mystère comme on pourrait en parler au sens religieux aussi. Il est question d'un miracle, hein. Il est question de sainteté aussi, mais d'une sainteté populaire, d'une sainteté archaïque. Et on sent que c'est ça aussi que vous avez voulu exprimer.
Oui, dans les films, il y a, je pense, des religions. Il y a une religion catholique que la marquise utilise pour faire des leçons à les enfants de l'inviolate, pour maintenir l'ordre, pour faire de la manière que les gens restent dans l'ignorance. Mais cette religion, c'est quand même l'unique chose, les uniques histoires que les gens de l'inviolate connaissent. Et après, il y a une autre religion que c'est une religion avant de la religion, une religion primordiale, un homme qui désire le bien des autres et rien d'autre. Et ça peut être presque une révolution, comme on n'est pas habitué dans la vie à voir ça. Et c'est tellement improbable de le rencontrer qu'en effet, les gens les suspectent. Parce que de voir quelqu'un qui n'a pas un désir mauvais, c'est tellement improbable qu'on pense tout de suite qu'il cache quelque chose.
Ce qui est très frappant dans votre film, c'est que vous réinventez complètement l'Italie. Il serait très difficile qu'on connaisse ou pas l'Italie de savoir les trajets que font les personnages et comment on passe d'un endroit à l'autre. Il se trouve qu'en ce moment, la politique italienne réinvente aussi le territoire, puisqu'on a l'alliance entre une Ligue du Nord qui avant ne s'intéressait qu'aux intérêts du Nord et un parti Cinque Stelle qui a fait surtout un succès dans le Sud. Et on a l'impression que, en voyant votre film, que l'opposition Nord-Sud, ce n'est plus comme ça qu'il faut penser l'Italie de nos jours.
On ne peut plus penser peut-être le monde dans nord et sud, c'est tout changé. Et je pense que s'il faut penser des oppositions, il faut penser entre l'intérieur et l'extérieur, entre les pays cachés et les pays exposés. Alors c'est un voyage d'un lieu caché, un lieu inviolata, allié perdu, qui ça peut être partout, à un lieu ouvert, une ville qui n'a pas de nom et que c'est une ville qui physiquement c'est un mix de plusieurs villes, mais qui c'est partout. Et naturellement, c'est aussi un film, il y a l'image de ces passages entre l'intérieur et l'extérieur, que c'est peut-être la première image du film que j'ai pensée, et c'est l'image des paysans qui sont devant la rivière en train de passer et qui n'arrivent pas à passer. Et je voulais, comme mon pays, il est en train de vivre une époque de xénophobie extrême, incroyable, unbelievable. Dans ces moments où le monde a perdu sa division et on ne peut plus imaginer le monde comme il était en temps, je voulais parler d'une migration domestique pour peut-être chercher de faire une association entre les migrations qu'il y a aujourd'hui et cette migration et pour voir qu'ils ne sont pas très loin de nous-mêmes.
Lazzaro Felice, heureux comme Lazzaro d'Alice Rohrwacker, est en compétition au Festival de Cannes. On l'espère ce soir très en haut du palmarès. Pas encore de date de sortie pour ce magnifique film. On suppose évidemment que ça dépendra de ce qui se sera passé ce soir. Le plan large est en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 71e édition du Festival International du Film. Belle compétition cette année en général. On a ainsi pu y découvrir le nouveau film du grand cinéaste coréen Lee Chang-dong, Burning, cinéaste rare que Lee Chang-dong, seulement 6 films depuis qu'on l'avait découvert en 1997 avec Greenfish, Peppermint Candy, Oasis, Secret Sunshine et Poetry l'ont installé au plus haut d'un pays déjà riche en grands auteurs. Il faut dire que celui qui a été un éphémère ministre de la culture de son pays, défenseur farouche des quotas qui protègent les films locaux contre le bulldozer hollywoodien, s'est mis tard à la réalisation. C'est avant tout un écrivain, l'un des plus reconnus dans la péninsule. C'est sans doute pourquoi il a fait du héros de son film Jong-Soo, un jeune homme désœuvré, comme on en a beaucoup vu cette année sur les écrans à Cannes, mais surtout un aspirant romancier en quête du sens de sa vie, partagé entre Séoul et son village d'origine, au bord de la frontière avec la Corée du Nord, dont les slogans diffusés par haut-parleurs ont baigné toute sa vie. Un jour, il rencontre une amie d'enfance, il ne la reconnaît pas, et pour cause, comme nombre de jeunes femmes en Corée, elle est passée sous le bistouri des chirurgiens esthétiques, il en tombe amoureux, mais il y a un autre homme dans sa vie, un riche héritier des quartiers chics de Séoul, Séoul, un Gatsby, comme nous dit le film. Il y en a beaucoup trop en Corée et qui surtout fait part aux héros d'un étrange et inquiétant passe-temps. Quand la jeune femme disparaît, Jang-soo mène l'enquête sans qu'on sache trop si ses errances sont réelles ou fantasmées. Lee Chang-dong a adapté pour ce film une nouvelle du romancier japonais Haruki Murakami, Les Granges Brûlées, qu'il a hybridé avec une autre nouvelle du même titre, Barn Burning, l'incendiaire en français, signé William Faulkner. De ses sources nippo-américaines, il tire un film profondément coréen. Nous avons rencontré Lee Chang-dong, c'était tout au bout du ponton d'un grand hôtel canois, les pieds dans la Méditerranée.
Bonjour.
이게 무슨 소리예요?
아 이거 북한에서 대남 방송 쓰는 스피커 소리예요.
저기 저 너머가 북한이잖아.
아 재밌네.
영화에서 주인공이 윌리엄 포크너 소설을 읽으면 자기 이야기를 보는 것 같다는 얘기를 하는데 그, 나 역시 윌리엄 포크너.
Dans le film, le personnage, il dit, là, William Faulkner, ça parle de mon histoire à moi, et moi, je me sens pareil, en fait. Donc, je pense que l'univers de William Faulkner, et ça reflète beaucoup ce que je ressens sur ce monde d'aujourd'hui.
재밌는 것은, 무라카미 하루키와 윌리엄 포크너가 같은 작가지만, 되게 다른 방식으로 소설을 쓰는 사람들인 것 같아요.
Ce qui est intéressant, c'est que Haruki et William Faulkner sont tous les auteurs, mais ils travaillent d'une façon très différente. Et je pense que moi, je rapproche plutôt de côté William Faulkner.
Chez Faulkner, on trouve un pays qui est divisé entre un nord et un sud. C'est ce qu'on ressent aussi dans votre film. Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez placé le village campagnard du film à la frontière entre le sud et le nord de la Corée.
예, 뭐 포크너 소설에도 남쪽이라는 게 중요하죠.
Même dans le nouvel Faulkner, c'est le sud qui compte. Voilà. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai traité ça dans mon film. Mais en fait, le conflit entre les deux Corées et le fait que le pays est séparé en deux, ça fait partie de la réalité pour les Coréens. Donc ça imprègne dans le quotidien des Coréens. On ne peut pas éviter. Donc on peut dire même le quotidien des Coréens s'établit sur cette séparation de pays.
On peut même dire qu'elle est intégrée à l'intérieur des personnages comme elle est intégrée dans votre film. Vous allez filmer des zones grises, vous êtes toujours à l'aube ou au crépuscule, entre chien et loup, on dit en français. C'est le sentiment que vous avez voulu donner également par l'image et par la mise en scène du film.
Oui, en fait, ce film est un mystère qui traite du mystère. Ce mystère 분명하지 않은 어떤 것.
Donc en fait, ce film traite un mystère. En fait, ce mystère, c'est en fait, ce film nous invite à suivre un mystère. Qui est le coupable? Pourquoi cette personne a disparu et tout ça? Mais en même temps, c'est un mystère qui reflète un peu le mystère du monde sur lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? C'est une frontière. On joue sur la frontière entre le vrai ou pas vrai. Et du coup, on montre beaucoup le lever de soleil et coucher de soleil et tout ça, c'est parce que c'est entre la nuit et le jour. C'était l'horaire qui correspondait bien à mon univers cinématographique de ce film.
49번입니다. 49번 고객님 계시는가요?
아, 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 어르신 건강하세요. 네, 다음 추첨 시작하도록 하겠습니다. 다음에 저희 최고급 스포츠 시계 준비되어 있는데요. 네, 행운의 주인공 한번 만나보실까요? 네, 뽑아주세요. 네, 두구두구두구두구두구. 행운의 당첨번호는요, 85번입니다. 축하드립니다.
Généralement, dans ce genre de film, le mystère s'éclaircit. Vous l'entretenez. On se rend compte que derrière chaque mystère, il y a un nouveau mystère. Est-ce que pour vous, le rôle de l'artiste, c'est de représenter le mystère, mais de le conserver, et non pas de le faire disparaître ?
저는 뭐 예술가의 자세나 태도에 대해서 이야기하기는 어렵지만 저는
je trouve que mon rôle en tant qu'artiste c'est de poser la question au lieu de donner la réponse. Si je crois que si le public il a une volonté ferme, ils vont trouver leur propre réponse. Donc je trouve, enfin, ce film traite le mystère du monde sur lequel on vit réellement. Donc on peut pas vraiment être clair et net sur ce monde qui reste mystère.
Le personnage de Jiangsu, ce jeune aspirant écrivain, est très émouvant parce qu'il a ce regard toujours un peu étonné sur le monde, toujours un peu en retrait, et cette façon un peu gauche, un peu malhabile dans son corps quand il veut agir. Pourquoi est-ce que vous l'avez présenté comme ça, ce personnage ?
그게 요즘 젊은이의 모습이라고 생각해요. 요즘 젊은이들은
Je pense que Jiangsu, il représente bien les jeunes d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas vraiment pourquoi. Et ils n'ont pas de travail, donc ils cherchent quelque chose vers lequel il dirige la rage, mais il ne sait pas où s'adresser. Donc c'est frustrant et il sent quelque part un sentiment impuissant. Donc le comportement de Jiangsu et le caractère de Jiangsu, il correspond parfaitement à ce jeune d'aujourd'hui.
Mais on sent effectivement les Changdong une violence latente, une violence contenue, alors qui dans d'autres genres de films coréens va s'exprimer par des films extrêmement violents comme on en voit en France. Et on sent que vous montrez que quelque chose peut arriver et c'est sans doute ce qui est le plus inquiétant pour le spectateur.
C'est un point qui me préoccupait tout au long de la réalisation, c'est-à-dire de maintenir une certaine tension qui monte en même temps qui doit descendre quelque part. Dans d'autres films, la tension il monte. Dans mon film, il fallait que je maintienne. Si ça monte trop, il fallait que je descende. Et donc c'était pour moi, c'était très important de garder ce rythme de tension qui persiste jusqu'à la fin du film.
Il y a un personnage tout à fait violent qui s'invite dans votre film de manière inattendue, les Changdong, c'est un certain Donald Trump. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire figurer dans votre film avec cette scène très drôle où votre protagoniste va uriner pendant que Trump vitupère à la télévision ?
Je
suis d'accord avec vous. Cette scène avec Trump, il suit juste après l'info qui parle de le taux de chômage qui remonte en Corée. Juste après, on entend la voix audacieuse Trump pendant que le personnage urine. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce genre de violence qu'on accepte en fait, parce que Trump, il figure à la télévision, parle de cette manière-là. C'est une sorte de violence, mais aujourd'hui, on accepte ça comme si c'était une partie du quotidien.
Heureusement, pas que de la violence dans votre film, il y a aussi beaucoup de douceur. J'ai été très touché par la manière dont vous utilisez la musique dans votre film, qui nous place un peu dans un état onirique, justement, entre la réalité et l'imaginaire, et par cette utilisation, dans une très belle scène, de la musique de Miles Davis pour le film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette musique-là ? Est-ce que vous êtes un admirateur du film de Louis Malle ?
Louis Malle est que... 사형대 엘리베이터, 립 투 더 스캐폴드, 그거 그 영화를 좋아하기도 하고요.
J'aime beaucoup la musique de Miles Davis et aussi, j'aime aussi le film de Louis Malle. Ascenseur pour les échafauds. En fait, là, j'aime beaucoup le film musique de Miles Davis en général, mais spécialement ce morceau-là, parce que ça donne justement l'ambiance très onirique. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. En même temps, j'ai choisi ce morceau-là aussi à cause de son titre, qui pour moi, ça suggère quelque chose dedans.
De l'inquiétude pour le spectateur aussi, qui se demande ce qui va arriver au personnage principal.
Ça donne une certaine inquiétude, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, j'ai l'impression juste quelque chose de mal qui va arriver, des choses comme ça.
Toute dernière question, Lee Chang-dong, nous sommes dans un moment particulier de l'histoire de la Corée, qui est un peu anticipé par votre film finalement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui nous, en France et dans l'Occident en général, nous a beaucoup surpris ?
불과 몇 달 전만 하더라도 한국은 금방 전쟁이 일어날 것 같은 그런 위기를 보였었죠.
Ah, donc là, même juste il y a quelques mois, on ne pouvait même pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui, comme si on parlait comme si c'était la guerre, il va arriver le jour lendemain. Donc en fait, s'il y avait la guerre, c'est une guerre qui concerne non seulement les deux Corées, mais aussi les États-Unis, en fait le reste du monde. Donc c'était un grand danger pour le monde entier. Mais aujourd'hui, ça change, l'ambiance a changé, et que je pense que j'ai beaucoup d'espoir sur de ce qui se passe en Corée, parce que je reste très positive, parce que en fait, il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'on prenne cette chemin parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Donc en fait, le fait que la relation nord-sud change, ça représente aussi, c'est très significatif pour le monde entier, non seulement pour nous, parce que ça annonce la fin de guerre froide qui persistait jusqu'à aujourd'hui. Alors si la réunification soit faite, ça veut dire que ça annonce vraiment la fin de guerre froide. Donc c'est très important.
Merci à Choi Yun-jung d'avoir traduit les propos de Lee Chang-dong. Burning en compétition cette année à Cannes sortira sur les écrans français le 29 août.
Plan large sur France Culture avec Antoine Guillot.
Don Quixote de la Mancha.
Come to restore the lost age of chivalry.
I am Don Quixote.
C'est vrai que des gens qui ont connu des échecs souvent se fuient pendant des mois, parce que des échecs dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle profession. Mais nous, ça avait été le cas, bien sûr. Et alors voilà, on s'est parlé, je lui ai tout expliqué, je lui ai raconté quelque chose auquel il a été très sensible, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé sur mon territoire, chez moi, j'ai été dans ma cuisine, je lui ai raconté ça, j'ai fouillé dans le tiroir de la cuisine, j'ai sorti une râpe à gruyère, une fourchette à gigot, un plat en étain que je me suis foutu sur la tête, j'ai accroché la râpe à fromage à mon avant-bras gauche et la fourchette à gigot était mon épée. Et j'ai demandé à ma charmante femme de faire une bobine d'un Don Quichotte piétiné, grotesque, montipitien. Et je pensais que ça allait être une bonne thérapie, ça. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il a fallu, après cette séance de photo, que j'aille au lit pendant 7 mois. Et je sortais seulement pour aller voir la faculté qui... On était presque au bord de Molière, d'ailleurs. J'allais voir tous les médecins, comme ça, c'était pas mal. Et alors, voilà, j'ai raconté ça, ça lui a fait beaucoup de bien. Il a beaucoup rigolé, il était très heureux de cette chose-là, qui était une nécessité, et une, pour moi, mais une pirouette cocasse pour nous. Ensuite, il m'a donné en cadeau, je ne reverrai pas Don Quichotte sans que tu donnes à Johnny Depp et à moi ton accord sur l'acteur que nous choisirons. Ça a été le début de la thérapie. Je n'abuserai pas de ce pouvoir, parce que je trouve que ça serait indécent, mais le fait de le savoir m'a fait du bien.
Vous aurez reconnu évidemment la voix du grand Jean Rochefort. C'était le 21 juillet 2003 dans Tout arrive. Il nous racontait la dépression qu'il avait vécue après la double hernie discale qui lui avait fait abandonner le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte à l'automne 2000. Ce n'était que la dernière avanie de 6 très laborieuses journées de tournage tout à fait catastrophiques en Espagne entre vols bruyants d'avions militaires et pluies diluviennes. Ces mésaventures légendaires ont donné lieu à un documentaire Lost in La Mancha qui a figé à jamais l'image de Terry Gilliam en cinéaste le plus malchanceux de toute l'histoire du cinéma. Et pourtant, que ce soit pour Brésil, les aventures du baron de Munchausen, les frères Grimm, Thaïlande ou encore l'imaginarium du docteur Parnassus, l'homme obstiné a toujours réussi à surmonter les obstacles jusqu'à 30 ans après l'avoir imaginé, présenté enfin ce soir en clôture du Festival de Cannes et sur les écrans français, malgré la guérilla judiciaire menée jusqu'au bout contre lui par le producteur Paolo Branco. Sa très libre adaptation du roman de Cervantes, rencontre avec un homme heureux et toujours vigoureux sur la terrasse ombragée d'un immeuble cannois.
Dello quattro mulero, dello quattro mulero, dello quattro mulero, mamita mia che va.
Can I have Max? Do you want something more?
I do, yeah. So many things. Better writing ability, mostly.
Jesus! No. Give it to me. Send you. Come here, Scudetto. Run! You will be safe with my squad. ¡Cuero!
Javier, solo estamos jugando. Solo estamos jugando.
Javier, this is great. This is great. This time, take two. Todo en inglés, please.
Inglés?
Yeah, in inglés. Action.
Sí, sí. Un hanta sal bandido hashtag and face justice.
Cut. Perfecto! Quédate vive! Quédate vive!
Wow! I am Don Quixote.
You are Don Quixote.
En voyant L'homme qui tua Don Quichotte, j'ai eu le sentiment que c'était votre film le plus autobiographique. Est-ce que c'est aussi votre avis?
Eh bien, c'est devenu de plus en plus autobiographique avec les années, les décennies passées, parce que c'était de plus en plus mon expérience en essayant de faire ce film. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment moi qui ai écrit ce film. Je crois que le film s'est écrit tout seul. C'était probablement un film qui fait une biographie de moi.
Mais si je vous pose la question, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'il y a dans ce film beaucoup de réflexions de votre part sur qu'est-ce que c'est que faire un film, qu'est-ce que c'est qu'un personnage de fiction, qu'est-ce que c'est que la fiction elle-même.
Je ne sais pas. La fiction, c'est comme si on commence quelque chose. On raconte une histoire, on espère que l'histoire est liée à la réalité, et puis la réalité commence à dicter l'histoire à un moment donné. Donc on ne sait pas séparer la fiction de la réalité. Les histoires sont des choses très puissantes. Une fois qu'il y a ce mouvement qui est créé, la fiction reprend le dessus. Mais la réalité commence à se battre aussi. Donc quand je fais un film, je ne sais pas qui c'est qui fait le film. Mais ça montre quand même mes expériences, ou mes rêves, ou ça montre mes espoirs, mais aussi mes cauchemars, bien sûr.
Il y a un dialogue à un moment dans votre film, Terry Gilliam, où quelqu'un va dire « rien n'est vrai » et l'autre va lui dire « il n'y a que ce qu'on décide qui est vrai ». Est-ce que ça pourrait être une bonne définition du cinéma ?
Je pense que oui. Le cinéma, c'est très dangereux, je pense. On fait des films et on espère que ce sont des films qui parlent de la vérité. Mais c'est la fiction. Et les films, il y a trop de films, en fait, qui ne parlent pas de la réalité, de la vérité. Ils parlent des fantasmes, des rêves. Et les gens commencent à croire à ces fantasmes et à les vivre. Et parfois, ça devient la vérité. Il y a un dialogue entre le cinéma et la civilisation. Toujours. Je vois dans le Brésil, par exemple, il y avait des choses qui étaient comme le centre Pompidou à Paris. Mais ça devenait réel. Les gens, ils commencent à copier le film. Et ça devient de plus en plus bizarre. Donc c'est ça qui se passe. Le film, ce n'est pas la littérature. Il n'y a pas d'image, il faut imaginer les images. Mais le film, c'est beaucoup plus précis. Et maintenant, je vois des bâtiments qui sont construits pour ressembler à des bâtiments dans les films de science-fiction. Donc, il y a toujours ce dialogue.
C'est amusant que vous parliez de Brésil, parce que le film y fait énormément penser, parce qu'il s'agit aussi de personnages qui s'échappent d'un monde qui ne leur convient pas pour aller dans l'imaginaire, et puis parce qu'il y a Jonathan Pryce. Qu'est-ce que vous voyez comme lien entre vos deux films, entre Brazil et Don Quichotte, et qu'est-ce que Jonathan Pryce a apporté au personnage de Don Quichotte, à votre avis ?
Alors, Jonathan, il voulait faire Don Quichotte pendant une quinzaine d'années. Et j'ai dit non, je cherchais d'autres personnes. Et j'avais toujours Jean Rochefort en tête, comme l'image de Don Quichotte. Et Jonathan, il n'est pas comme lui. Et c'était la dernière minute, en fait, quand Michael Palin est parti. Et Jonathan tapait à ma porte. Et il était tellement merveilleux. Dès qu'on a commencé à tourner, il était très excité parce qu'il faisait un personnage qu'il voulait jouer. Et il contribue tellement d'idées. Il a pris le personnage, et puis le personnage est beaucoup plus drôle maintenant que même quand c'était écrit par Cervantes. Mais il devient tragique aussi. Jonathan, il est merveilleux quand il a la liberté de jouer. Et nous, on a rigolé, on a joué. Et il y a aussi un autre lien entre Brésil et Quichotte. La France, le film est sorti pour la première fois en France, quand j'étais en guerre avec Universal. Et là encore, c'est la France qui est venue sauver Don Quichotte. Donc la France, il y a un rapport très particulier avec mes films. C'est très intéressant.
Well, yes. You have a simple view of life, Sancho. Very touching.
Yeah, and you're really Don Quixote.
You doubt it?
Look, do you remember years ago, about 10 years ago, I was making a film? You were just an old man I found.
I was lost. Forgotten.
Yeah, right, but then I found you, and I thought, this guy has an interesting face. It's the kind of face I'd use now to sell insurance.
I owe you a great debt, Sancho. You restored it to me.
You really don't remember.
Jonathan Pryce dit d'ailleurs en blaguant que s'il y a eu tous ces problèmes sur le film, c'est que vous attendiez qu'il ait l'âge de jouer Don Quichotte. Vous-même, vous avez vieilli pendant ce temps-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes passé de Sancho Panza à Don Quichotte, et pas seulement pour des raisons d'âge?
I don't know. I think je ne sais pas. Je crois que j'ai fait un film qui est meilleur que le film que j'aurais fait il y a 25 ans. J'ai vieilli, j'ai eu des problèmes, je suis devenu plus comme Don Quichotte, des hauts et des bas. Boom, bang, voilà. Et ça change son point de vue. Et c'est ça que j'aime dans ce film. Je dis, c'est pas moi Don Quichotte, c'est le film qui est Don Quichotte. Moi, je suis Sancho Panza. Je suis celui qui veut le soutenir. Et on a réussi à le faire.
Une des difficultés que racontent souvent les réalisateurs qui sont aussi scénaristes, c'est la difficulté de garder le désir de ce qu'on a rêvé au moment du scénario pour conserver ce désir au moment du tournage. Dans votre cas, il faut garder le désir pendant 25 ans. Comment est-ce que vous avez fait ?
Je ne sais pas si c'était un désir, c'était un désir peut-être d'éliminer ça de mon cerveau. C'est très négatif, mais je disais, c'est comme une sorte de tumeur du cerveau. Et là, donc, il faut que je l'enlève pour pouvoir continuer avec ma vie. Mais ce qui l'a gardé en vie, c'est quand on a tourné, parce que les acteurs étaient tellement bons et ils ont rajouté tellement de choses. Et c'est ça, là, au quotidien, c'est ça qui a fait que c'était en permanence excitant et intéressant, parce qu'on faisait un nouveau film avec de nouveaux gens. Parce que sinon, et c'est pour ça que j'ai changé le scénario, parce que je ne voulais pas être coincé dans le film qu'on faisait en 2000. Donc, c'était toujours nouveau. Il y a des choses nouvelles, il y a d'autres choses, c'est la même chose de la première version, mais une transformation totale. Et c'est comme ça que je me trompe, en fait. Comme ça, j'ai l'impression de faire quelque chose de nouveau.
Vous pouvez expliquer tout aux autorités.
You think explaining explains anything?
Well, yes.
You have a simple view of life, Sancho.
Very touching.
Yeah, and you're really Don Quixote.
You doubt it?
Look, do you remember years ago, about 10 years ago, I was making a film? You were just an old man I found.
I was lost. Forgotten.
Yeah, right, but then I found you, and I thought, this guy has an interesting face. It's the kind of face I'd use now to sell insurance.
I owe you a great debt, Sancho. You restored it to me.
You really don't remember? Don Quixote de la Mancha, the Knight of the Mournful Countenance,
come to restore the lost age of chivalry by a special will of heaven.
L'univers de Don Quichotte est un univers très graphique aussi. On connaît la légende que vous vouliez faire ce film sans même avoir lu le livre. Et on sent le plaisir que vous avez à vous inscrire dans cet univers qui va de Gustave Doré à Pablo Picasso et tant d'autres. Est-ce que vous avez aussi pensé votre film en tant que dessinateur, comme vous avez commencé votre carrière ?
Oui. Enfin non, chaque image, là je suis impliqué dans chaque image. Là, heureusement avec Benjamin, avec Nicole, là on améliore les images que je ferai tout seul. Mais je sais ce que je veux faire. Et c'est drôle parce que Doré, il était très important, Goya très important, et Daumier aussi, un des meilleurs tableaux de Quichotte et Panza. Donc il y a toutes ces images dans ma tête en permanence et on choisit un lieu pour tourner et puis on travaille. À un moment donné, ce n'est pas une décision consciente. On dit voilà, le soleil est comme ça, on va filmer là et puis on va le faire.
Et puis enfin, une des choses très émouvantes dans votre film, Terry Gilliam, c'est l'utilisation que vous faites des effets spéciaux. Ce sont des effets spéciaux mécaniques, des effets spéciaux optiques, mais ce n'est jamais les images de synthèse d'un ordinateur. Est-ce que vous avez voulu conserver ce côté presque archaïque du cinéma?
On parle de quelqu'un qui a tous ses fantasmes, en fait. Il fallait avoir quelque chose de tactile, un monde réel. Les textures sont réelles, on les sent, c'est sale, c'est dur. Quand on tombe, ça fait mal. Et c'est une démarche très précise contre le monde de Marvel, en fait. Là, c'est extraordinaire techniquement, mais c'est pas réel. Et le monde réel est extraordinaire. C'est merveilleux. Donc, c'était très important. Et c'était très dangereux parce qu'on était, on était à l'extérieur pendant tout le tournage quasiment. Donc, on était très vulnérable en termes du temps, etc. Et le temps était très gentil. La météo était bien pour la première fois sur un film, en fait. Mais la réalité était très importante pour rappeler aux gens ce que c'est le monde réel et c'est beau. Et il y avait un ami qui, il est américain, il fait les effets spéciaux, c'est un des meilleurs, il fait des films énormes. Et quand il a vu le film, il a dit, j'ai jamais vu un film avec autant de textures, des vraies textures. Et donc c'était merveilleux.
Thank you.
with you, you know? You better be extra nice to me. Tally-ho.
You do know that's not your Dulcinea, right?
What made you think she was? I'm beginning to worry about you, Sancho. You'd better behave.
Don't be nervous, Sancho. This is our reward for all the pain we have endured. Did I not say I would make you king?
Welcome to you, Don Quixote, the flower and cream of knight-errantry. Please be so kind as to accept our hospitality and grace our palace with your fame.
Merci beaucoup à Bernard Reeves pour sa traduction des propos de Terry Gilliam. L'homme qui tua Don Quichotte est à voir dès aujourd'hui sur tous les écrans. Vous écoutez France Culture, Plan Large est en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Il est temps de revenir sur 11 jours qui ont semblé une éternité.
就是经过高温热烧也会不就是最干净的则贵地方成了跑火也没人知道你又呛还怕别人把你灭了又呛的人才死得快呢
Un extrait des Éternels de Jajanque, un des très beaux moments de cette 71e compétition cannoise. Alors, ça ne fait pas une éternité que vous venez à Cannes, mais presque. On a fêté jeudi soir au dîner de la presse vos 50 ans de festival. Michel Simon, bravo. Président du jury de la FIPRESI cette année, qui va décerner donc les prix de la critique internationale. Cet après-midi à 16h, on n'a rien le droit de dire pour l'instant. Vous avez donc tout vu des 21 films en lice pour la Palme d'Or. Premier regard sur la qualité générale de cette compétition. On avait salué il y a un mois, lors de son dévoilement par le délégué général Thierry Frémaux, un vrai renouvellement. Voilà, comment c'était cette année pour vous ?
Ce qui me frappe, c'est que ce qu'on annonçait comme un renouvellement n'a pas eu lieu véritablement et que les meilleurs films, ou la plupart des meilleurs films, c'est fait par des anciens, des habitués, comme on dit, du festival. Le film de Jajanque, justement, dont on vient de parler, le film coréen de Lee Jong-dong, Burning, qui est pour moi... Un immense film, le nouveau film du Turc Nuri Bilge Ceylan, qui a été très mal programmé à la dernière minute, un film de 3h07 le dernier soir, c'est-à-dire que les gens étaient épuisés, mais qui a été accueilli de façon absolument formidable, il s'appelle Le Poirier Sauvage.
Je confirme, c'est un très très beau film.
Pour moi, c'était vraiment les trois grands films, et il y en avait d'autres aussi, mais c'est des gens, à part peut-être la révélation d'un cinéaste qui avait été accueilli à Cannes déjà, mais modestement et sans grand enthousiasme, à mon avis à tort, qui était Serebrennikov, l'auteur du Disciple, qui revient cette fois-ci avec une histoire d'amour, un trio à la Truffaut, à la Juliette Jim, sur fond de musique rock de la Russie des années 70, qui est un film, je trouve, plein de dynamisme et de justesse de ton. Il n'y a pas eu de vraie révélation, donc ce renouvellement n'a pas eu lieu, et heureusement qu'il y avait ces grands anciens.
Alors, qu'est-ce que on peut dire un peu de cette sélection cette année, donc confirmation des grands anciens, c'était plutôt une bonne compétition. Il y a des années où on râle sans arrêt le festival.
On râlait aussi encore cette année. À mon avis, on râle tout le temps à Cannes. Mais moi, ce qui me semble, c'est que c'est presque toujours le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a trois quarts des films qui sont vraiment parmi les meilleurs films de l'année. On se dit quel grand festival, et on ne comprend pas que les mêmes personnes qui ont su dénicher ces très bons films aient pu sélectionner parfois des films d'une effrayante banalité ou d'une vulgarité ou d'un inintérêt total. La sélection française, d'ailleurs, s'est fait très remarquer parce que nous sommes la puissance invitante avec quatre films, alors qu'il y avait deux Italiens, deux Américains, la plupart des pays, un seul film. Donc on s'attend pour avoir quatre films qui est vraiment des films majeurs. Et en dehors, pour moi, encore une fois, en dehors du film de Stéphane Brisé, En guerre, qui est un film sur les luttes syndicales, qui est d'ailleurs sorti sur les écrans en même temps, j'ai pas été marqué du tout par ces films. Et en particulier un film de Eva Husson, qui avait déjà fait un film très discutable, Bang Bang, qui pour son deuxième film a été accueilli en compétition sur fond de guerre au Moyen-Orient avec les Kurdes.
Les filles du soleil,
ça s'appelle. Qui a fait un peu pchit, voilà. Et donc là, c'est un peu embêtant parce que ça se retourne contre la cause des femmes, c'est-à-dire qu'on se dit, mais elle est là parce que c'est une femme et non pas parce que c'est une grande cinéaste.
Alors, je ne sais pas, vous qui fréquentez beaucoup vos confrères internationaux, ne serait-ce qu'au sein de la FIPRECI, donc Fédération Internationale des Critiques et des Journalistes de Cinéma, on a lu ici et là, dans les journaux, dans la presse professionnelle, type Variety, Hollywood Reporter, mais aussi dans d'autres, notamment les quotidiens italiens, que Cannes serait en déclin. Il n'y aurait plus de stars, plus de glamour, plus de fêtes, et en plus, il pleut tout le temps. Ça, c'est le Festival de Cannes n'y peut pas grand-chose. Mais comment vous expliquez ce sentiment de la presse internationale que Cannes est sur le déclin ?
Encore une fois, il y a toujours, on crache dans la soupe. On est, de toute façon, les grands festivals sont soumis à la même critique. On critique Venise, on critique Berlin. Moi, je pense que il y a deux types de réactions négatives. Il y a d'une part les anglo-saxons qui sont très orientés vers le star system, qui voudraient beaucoup plus encore de montée de marche, alors que beaucoup de gens sont invités à Cannes à cause de la montée des marches et non pas pour la qualité de leur film. Donc eux, ils en voudraient beaucoup plus. Ils voudraient des entretiens. Ils s'intéressent pas du tout à un film indonésien ou un film roumain, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est des fêtes, des dîners où ils sont invités, et d'avoir de grandes stars internationales et surtout américaines. Et puis alors, il y a d'autre part les gens qui voudraient que Cannes soit plus pointu, soit beaucoup plus cinéphilique, etc. Je pense que Cannes réussit à maintenir cet équilibre tout de même entre, effectivement, les films grand public, le glamour, et puis des films de recherche parmi les meilleurs. Ce qui m'inquiète, c'est la composition des jurys qui, de plus en plus, vont vers le glamour, et pas assez, à mon avis, vers la cinéphilie. C'est-à-dire que je pense, par exemple, prenons les femmes. Il y a énormément de femmes brillantes dans des domaines de création. Des monteuses, des chefs opératrices, des productrices, des distributrices, etc. Même des cinéastes. Or, il semble que les femmes soient choisies pour monter les marches, pour être très belles, etc. Elles sont très belles, mais peut-être qu'on pourrait prendre aussi des artistes femmes, pas seulement des comédiennes, qui sont aussi des artistes à leur façon. Et je pense que c'est ça qui est préoccupant.
Alors on verra ce que ça donnera ce soir, si le jury aura su voir les films ou non. Si vous étiez président du jury et tout le jury à vous tout seul, quel serait votre palmarès, là, les trois prix les plus importants, réalisation, grand prix et palme d'or?
Je n'aurais pas redonné une palme d'or à Nuri Bilge Ceylan, mais j'aurais donné le prix de la mise en scène. Par exemple, c'est un film somptueux de 3h07 qui va sortir le 15 août et que je pense que les admirateurs de Nuri Bilge Ceylan retrouveront ce Tchekhov turc. C'est un film magnifique et je l'aurais donné, et c'est d'ailleurs le prix de la FIPRECI que j'ai présidé, c'est le film de Lee Jang-dong, le film coréen, grand cinéaste, déjà primé à Cannes pour d'autres prix, et qui a été à l'unanimité, a reçu donc le prix de la presse internationale, comme Tony Erdmann, il y a 3 ans, qui avait eu le prix de la FIPRECI et pas d'autres prix officiels. Et peut-être cette année, ce soir, nous apprendrons que Lee Jang-dong n'a pas de prix non plus, ce qui confirmerait qu'il y a un divorce entre la critique et le jury.
Merci Michel Simon, c'est donc un scoop, le grand prix de la FIPRECI cette année à Cannes, c'est Lee Jang-dong pour Burning qu'on vient d'entendre dans Plan Large. On se quitte sur une chanson du groupe de Soviet Rock Kino, dont le très beau film, vous l'avez dit Michel, de Kirill Serebrennikov, Leto, racontait la naissance. Le film a été projeté en début de festival, il sera peut-être ou non au palmarès ce soir. Plan Large en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, François Rivalan. Gilles Gallinaro, Fabien Gosset, Georges Thau, et à Paris, je ne sais pas qui c'est, mais je le salue. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. Un grand merci à toutes les équipes de Radio France à Cannes, et en particulier à Pascal Morel, Guillaume Rialan et Raja Boutni, que je salue de l'autre côté de la vitre. La semaine prochaine, retour à Paris, à l'occasion de la ressortie en salle du très beau Reprise de Hervé Leroux. Nous verrons ce qui s'est joué dans le cinéma au moment de mai 68 et dans les années qui suivirent.